journée, vous écoutez France Bleu Gironde. Nous sommes mardi le 7 mai et il est 8h.
Le gros de la circulation, ça risque d'être ce soir, Marie-Corinne Caïto. D'ici là, ça va.
Oui, il y a quelques petits coups de frein, histoire de dire que sur la 62, la 63, mais nos cartes sont plutôt au vert quand même ce matin. On est sur du rouge, alors c'est un petit panachage de couleurs comme ça, mais du rouge pour cette journée bison futé, voie rouge, donc dans le sens des départs, évidemment, avant ce long week-end du 8 mai. Vous notez quand même que le tram C est toujours interrompu entre les stations Gare de Blanquefort et La Vache, avec un problème technique qui empêche donc le tram de circuler sur ce secteur. Et puis le tram A interrompu aussi entre les stations Mériadec et Sainte-Catherine. Une autre info importante, parce que tout est important. Le pont Chabon-Delmas à Bordeaux sera fermé ce soir entre 18h05 et 19h30. Vous le notez sur vos tablettes pour pas vous faire avoir tout à l'heure. Pour la météo, le ciel reste maussade ce matin.
Oui, des nuages, des petites averses localement. La bonne nouvelle, c'est que Météo France nous promet une amélioration pour cet après-midi. Un temps plus sec et de belles éclaircies en fin de journée. Le vent d'ouest à nord-ouest souffle assez fort sur le littoral, 10 à 12 degrés au thermomètre au réveil. Cet après-midi, on attend jusqu'à 18 degrés sur le Médoc, 16 à Arcachon, 17 à Carbon-Blanc, Sainte-Foy-la-Grande et Langon.
Le vin de Bordeaux cherche à briller à l'étranger.
Oui, après une nouvelle année de chute des ventes, moins 4% en 2023, selon le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Le CIVB qui cherche à consolider donc ses principaux marchés, comme la Grande-Bretagne, quatrième pays importateur de vin de Bordeaux en volume. Depuis une semaine et jusqu'à ce soir, les visages de vignerons et négociants girondins s'affichent en grand, en très très grand, sur un écran géant à Piccadilly Circus au cœur de Londres, mais aussi sur les fameux bus rouges à Imperial. Campagne de pub réalisée aussi à Boston ou à Chicago aux États-Unis pour un coût total de plusieurs millions d'euros. Mais elle ne fait pas que des heureux. Dépenser de telles sommes en affichage est une aberration pour Michel-Éric Jacquin, propriétaire du château Makievka à Saint-Émilion.
Notre problématique, c'est de vendre plus cher et de vendre plus. Et aujourd'hui, cette campagne ne répond absolument pas à ses objectifs basiques. Donc voilà, cette campagne est totalement inutile pour les financeurs du CIVB. Nous, les petites étiquettes, enfin, elle ne crée absolument aucun désir sur ces produits-là. Nous, nous payons avec nos produits, nos cotisations obligatoires, nous payons 5 millions d'euros de la campagne et on n'a absolument aucun retour, zéro retour. Donc c'est scandaleux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dépensé pour rien du tout. Il nous faut de la publicité, mais une publicité qui soit utile, qui fonctionne sur nos produits, pas une publicité qui est tournée vers l'interne alors qu'on doit vendre des produits à l'externe.
Et cette campagne d'affichage s'inscrit plus globalement dans la campagne de promotion du CIVB intitulée « Join the Bordeaux Crew ». Coût total, 12 millions d'euros. Dans le Bergeracois, c'est la consternation depuis dimanche, depuis cet épisode d'orage et de grêle qui a provoqué de gros dégâts dans le vignoble. Près de 2000 hectares détruits selon les professionnels, le tout deux semaines après d'importantes gelées et alors que le risque d'une nouvelle année marquée par le mildiou se profile d'après les viticulteurs. La chasse à l'alouette, à la panthe et à la matole, c'est fini. Le Conseil d'État met un terme à ces chasses traditionnelles. Il estime qu'elles sont contraires à la législation européenne. Colère des chasseurs qui défendent leur patrimoine, satisfaction des associations environnementales qui se battent contre ces chasses depuis des années. La population d'alouettes des champs a baissé d'un quart en France ces 20 dernières années selon la Ligue de protection des oiseaux.
La France, un très mauvais élève en termes de mortalité des nouveau-nés.
Notre pays se classe 22e sur 34 pays européens. La France recule même de 2 rangs par rapport à 2023 dans un classement traditionnellement dominé par les pays nordiques, la Finlande ou la Norvège notamment. Dans un rapport publié hier, la Cour des comptes dénoncent des résultats sanitaires médiocres en matière de santé périnatale. Les sages préconisent un meilleur suivi et plus de prévention, Anne Lordanier.
Plus de 9 milliards ont été investis en 2021 et pourtant les indicateurs restent dans le rouge. Le nombre d'enfants morts-nés ou décédés durant le premier mois de leur vie reste à un niveau élevé en France par rapport à d'autres pays européens. La Cour des comptes attribue ces mauvais résultats à un manque de suivi des femmes les plus à risque. En surpoids, consommatrices d'alcool, de tabac, socialement plus précaires, souvent étrangères, les sages recommandent de mettre en place un registre des naissances complet qui permettra aussi de suivre les grossesses tardives. D'après le rapport, toutes ces femmes à risque devraient toujours accoucher dans des services capables de faire face à des complications. La Cour prône la sécurité plutôt que l'accessibilité en soulignant les difficultés des maternités qui assurent moins de 1000 accouchements par an pour attirer et conserver du personnel qualifié.
Et l'an dernier, un rapport de l'Académie nationale de médecine préconisait de supprimer les petites maternités qui voient naître moins de 1000 bébés chaque année. C'est le cas chez nous, par exemple à l'Espart-Médoc ou à Blaye. Emmanuel Macron est attendu à l'aéroport de Tarbes ce matin, accompagné du président chinois Xi Jinping, au deuxième jour de sa visite d'État en France. Un passage plus personnel, puisque le chef de l'État emmène son hôte sur les terres de ses vacances d'enfance dans les Pyrénées, déjeuner dans un restaurant du col du Tourmalet tenu par un ami. Ce déplacement est censé permettre un échange plus direct entre les deux chefs d'État sur la guerre en Ukraine ou sur les désaccords commerciaux. L'armée israélienne continue à bombarder de manière intensive la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. Malgré l'annonce du Hamas hier, le mouvement islamiste palestinien a fait savoir aux pays médiateurs du conflit qu'il acceptait leur proposition pour un cessez-le-feu avec Israël. Mais cette proposition est loin des exigences israéliennes, a rétorqué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. De nouveau pour parler, sont programmés aujourd'hui au Caire, en Égypte.
Le conflit entre Yannick Bru et Philippe Taïeb va se régler en justice.
Le second président de l'Aviron Bayonnais porte plainte contre le premier manager de l'Union Bordeaux-Bègles. La goutte d'eau, cette altercation entre les deux hommes à l'issue de la victoire de l'Union à Jean Daugé le 27 avril dernier. Selon plusieurs témoins, Philippe Taïeb aurait refusé de serrer la main au coach girondin. Yannick Bru lui aurait alors asséné une légère tape derrière la nuque. C'est l'épilogue, Kevin Blondel, d'une longue dégradation des relations entre les deux hommes.
Ils se sont aimés d'abord. En 2018, Philippe Taïeb confie à Yannick Bru les clés du camion bayonnais. Le président parle alors d'une amitié longue de 25 ans. Les liens sont solides à l'époque. Quand les résultats sont mauvais, il met sa place au conseil d'administration dans la balance et jure qu'il ne virera jamais Bru. Et puis les relations se tendent petit à petit. On n'est plus d'accord sur la politique du club. Yannick Bru voudrait un centre de formation, ce qui lui a été promis. Les dirigeants préfèrent un agrandissement du stade Jean Daugé. Le manager estime que le sportif passe après l'argent. Il le regrette, le dit haut et fort. S'ajoutent d'autres griefs et c'est la rupture. Durant leur dernière saison commune, ils ne communiquent plus que par courrier. Yannick Bru finit par partir en 2022 à la fin de son contrat, adulé par les supporters bayonnais, beaucoup moins par le président basque et une partie du personnel administratif du club. Alors est-ce que Bru a voulu enterrer l'âge de guerre en tentant de serrer la main de Philippe Taïeb avant cette altercation? C'est à eux de s'expliquer désormais.
Et les avocats des deux hommes ont décidé de ne pas commenter cette affaire pour l'instant. Nos équipes s'illustrent décidément devant les tribunaux ces jours-ci, puisque les Girondins de Bordeaux, eux, sont convoqués ce matin au Prud'homme de Bordeaux dans le dossier Vladimir Petkovic, le Suisse licencié après 6 mois sur le banc des Marinés Blancs. En février 2022, pour cause de résultats catastrophiques, ils réclament un peu plus de 6 millions d'euros au club. Eux seront jugés à une date ultérieure, le 13 juin, pour le chauffard au cœur d'une course-poursuite sur plus de 30 km avec les forces de l'ordre de Bordeaux à Vers dans le Libournais la semaine dernière. Et les deux Girondins trafiquants de drogue présumés interceptés il y a quelques jours dans les Landes en possession de 100 kilos de cannabis. Leur procès prévu hier à Bordeaux a été renvoyé.
Une pluie d'hommage depuis hier après-midi et l'annonce de la disparition de Bernard Pivot.
Les acteurs du monde de la culture, évidemment, saluent unanimement la mémoire du journaliste et animateur de télévision disparu à l'âge de 89 ans. Bernard Pivot, indissociable de ses célèbres dictées et surtout de son incontournable émission littéraire Apostrophe, diffusée pendant 15 ans jusqu'en 1990. En Europe aussi, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, a écrit l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou. Et puis une bonne nouvelle, alors que les températures vont grimper en fin de semaine, le miroir d'eau reprend du service à Bordeaux. Il sera remis en eau à 10h ce matin, près d'un mois après avoir été endommagé au cours d'une manifestation d'agriculteurs. Le lisier déversé sur le miroir d'eau avait contaminé les 800 m3 d'eau stockée dans le sous-sol.